Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cette fois, la campagne est bien lancée en Allemagne et le décor est planté avant les élections de septembre prochain pour succéder à Angela Merkel. C'est un duel avec peut-être quelques arbitres qui s'annoncent. D'un côté, il y a le conservateur Armin Laschet qui a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de son rival bavarois Markus Söder, plus populaire et qui n'a sans doute pas fini de faire parler de lui. De l'autre, l'écologiste Annalena Baerbock, 40 ans et qui a été désignée de manière beaucoup plus paisible par un parti en tête des sondages depuis quelques jours. Le renouvellement politique en Allemagne annonce-t-il un vrai changement? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans notre studio. Il y a Anne Sall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université. Et par téléphone, nous sommes avec Hans Stark. Bonjour.
Bonjour. Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université, co-auteur du livre « L'Allemagne sur la scène internationale, enquête de stabilité dans un monde qui change » aux presses universitaires du Septentrion. Et également Emmanuel Droit. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, ancien directeur adjoint du centre Marc Bloch et auteur du livre « 24 heures de la vie en RDA » aux éditions Presse Universitaire de France, au PUF. On va commencer avec vous, Emmanuel Droit. Le paysage qui est en train de se dessiner depuis quelques jours, est-ce qu'il est véritablement inédit ?
Le paysage politique allemand, il est en recomposition depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, évidemment, d'observer, je pense que mes collègues le confirmeront et le préciseront, c'est de voir pour l'instant la montée en puissance du Parti des Verts dans les intentions de vote. Et puis, ce qu'on voit depuis plusieurs années et ce qui se dessine avec une forme de processus d'accélération pour la CDU de manière assez frappante, c'est le déclin de ce que l'on appelle les Volksparteien, c'est-à-dire ces grands partis de masse qui étaient la CDU et le SPD, qui depuis des décennies structuraient le champ politique allemand. Et là, on a évidemment une configuration intéressante dans la mesure où on peut véritablement parler de potentiel renouveau. Il faudra être prudent parce que ce à quoi on assiste d'abord, c'est une effervescence médiatique autour de Madame Baerbock. Et là, il faut rester prudent puisque les élections sont en septembre et que ce ne sont pas les médias qui font les élections, mais bien les électeurs. Et on a quand même un électorat qui reste volatile, une candidate verte qui est très haut dans les sondages, mais qui va prendre des coups dans les prochains mois et qui va devoir assumer cette position de favorite finalement de l'élection par rapport à deux autres grands candidats issus de ces partis de masse expérimentés. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la question va être de savoir si on va vraiment assister à une vague verte dans les prochains mois.
Anne Sall, donc c'est nouveau. Mais pour autant, Emmanuel Droit le disait à l'instant, on le voit venir depuis un petit moment déjà. Est-ce que c'est réellement surprenant, cette configuration ?
Alors, pas tant que ça, puisqu'on a une vague verte globalement, pas seulement en Allemagne, mais globalement en Europe. Et on a effectivement une recherche d'alternatives démocratiques qui s'est affirmée en Allemagne, comme ailleurs également, qui s'est particulièrement portée sur les Verts, sans surprise, puisque dans les sondages, on voit que la préoccupation numéro un des Allemands avant le Covid, c'était le climat. Et c'est déjà en train de remonter, donc c'est très sensible sur les derniers sondages. Et c'est actuellement la deuxième préoccupation après le Covid. Donc c'est quand même dire qu'on a vraiment cet intérêt particulièrement fort. Donc effectivement, les Verts avaient déjà fait de bons résultats, ne serait-ce d'ailleurs que Annalena Baerbock dans son propre Land, puisque dans le Brandebourg, elle avait fait 10%. Donc on a vraiment déjà, avant, un engouement pour les Verts en particulier, qui là, effectivement, est particulièrement fort. Et je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Droit, il faut rester prudent, parce qu'elle vient tout juste d'être nommée. Elle a l'avantage, comme elle n'a aucune expérience politique, d'être toute nouvelle, c'est-à-dire de pas avoir, entre guillemets, de casserole, comme les deux autres hommes, donc Olaf Scholz et Armin Laschet, qui effectivement, ont quand même ont subi des critiques pour un certain nombre de choses. C'est pas son cas, mais bien sûr, ça va venir. Elle a 4 mois où il va falloir tenir, où il va falloir surfer vraiment sur le haut de la vague. On a l'exemple de Martin Schulz. On a vu ce que ça a donné. Il a effectivement fait l'objet d'un engouement extraordinaire et s'est retombé comme une baudruche. Effectivement, la question qui va se poser pour elle, c'est si elle va finalement subir le même sort ou tenir, sachant que elle, ça fait que 4 mois. Lui avait dû tenir presque 1 an et il a pas tenu 1 an. Voilà.
Hans Stark, qu'est-ce qui explique cette évolution? Comme le disait à l'instant Anne Sall, c'est parce que les sujets environnementaux sont présents dans l'opinion, dans le débat depuis longtemps, et c'est quelque chose qui, finalement, cette montée actuelle des Verts, qui semble assez logique, même au moment de la pandémie.
Oui, bien sûr. Donc Anne Sall, à très juste titre, souligne donc l'importance du thème, du sujet du changement climatique, qui a d'ailleurs été rappelé aussi par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe il y a 2 jours, qui a critiqué le gouvernement fédéral pour la modestie de ses objectifs en termes de lutte contre le changement climatique. C'était quand même un rappel à l'ordre, en quelque sorte, ce qui veut dire que la lutte contre le changement climatique fait partie aujourd'hui d'un très large consensus outre-Rhin. Mais les partis classiques admettent la nécessité d'un changement à ce niveau-là, mais se heurtent quand même encore à des lourdeurs et à des politiques économiques et industrielles traditionnelles, notamment le charbon. Armin Laschet est à la tête d'un Land, la Rhénanie-Nord-Westphalie, où le charbon joue encore un rôle important. La CDU peine à s'affirmer dans 2 Länder d'Allemagne de l'Est, en Saxe-Anhalt, où il y a d'ailleurs des élections régionales très importantes le 6 juin. Et également en Saxe, où il y a aussi une industrie de lignite très importante, et où, dans ces 2 Länder de l'ex-RDA, il y a depuis très longtemps d'abord un très fort conservatisme de droite, y compris en faveur de l'AFD, mais aussi une non-reconnaissance de l'urgence des mesures contre le changement climatique. Et donc, les Allemands de l'Est s'accrochent, entre guillemets, à leurs prérogatives sur le plan industriel. Donc tout ça va rendre la chose très difficile pour Armin Laschet, qui par ailleurs souffre aussi de très mauvaises images de marque, d'une très faible popularité auprès des Allemands, y compris au sein de son propre parti. Et il est vraiment en bas dans les sondages à titre personnel. Et cela explique également la montée en puissance maintenant d'Annalena Baerbock et des Verts.
Alors on va reparler évidemment d'Armin Laschet et de la CDU-CSU. Emmanuel Droit, j'aimerais revenir quand même sur les Verts. Cette poussée des Verts aussi forte, elle est assez récente, mais l'histoire des Verts, elle remonte quand même à quelques années maintenant. Quel est leur positionnement politique? Est-ce que, comme les Verts français, ils se revendiquent clairement de gauche?
Alors, les Verts ont en effet une histoire à la fois récente quand on la compare à l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, une histoire qui s'inscrit dans le prolongement du mouvement anti-autoritaire de 68 et du développement de ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Et ces Verts ont déjà une expérience de gouvernement, puisqu'ils ont fait partie du gouvernement de coalition avec le SPD au début du 21e siècle, avec Gerhard Schröder, fin 20e, début 21e. Ces Verts sont clairement identifiés à gauche, porteurs d'une vision cosmopolite de la société, libérale sur le plan culturel et le plan des valeurs, pacifistes, antimilitaristes. Ils ont cette particularité d'avoir été longtemps, encore aujourd'hui, on le voit bien à travers les récentes déclarations en interne, ils sont structurés autour de 2 grands pôles. Le pôle de ce qu'on appelle les réalistes et l'autre, les fundis, donc les fondamentalistes, ceux qui sont attachés à un certain nombre d'idéaux et qui ne veulent pas compromettre ces idéaux à l'expérience du pouvoir. Ces Verts sont en effet, ça a été rappelé par mes collègues, très bien implantés dans les Länder de l'Ouest. On a avec M. Kretschmann un ministre-président d'une des régions les plus prospères d'Allemagne, qui est la région sud-ouest du Bade-Wurtemberg. Et en même temps, c'est un parti essentiellement urbain et un parti qui est essentiellement ouest-allemand, puisqu'il a encore du mal à prendre pied en Allemagne de l'Est. Alors, certes, Madame Baerbock vit à Potsdam, elle est implantée dans le Brandebourg, mais les Verts, autant les Verts sont en train de monter en puissance et de prendre quasiment le leadership par rapport au SPD dans le camp de gauche, à l'Ouest, autant à l'Est, ils sont décrochés par rapport à la CDU et même à l'AFD. Et alors certes, l'Allemagne de l'Est ne pèse pas beaucoup démographiquement sur les 80 millions d'habitants d'Allemagne, mais il y a là un vrai défi pour Madame Baerbock d'arriver à faire des Verts un parti, j'allais dire, pan-allemand. Ce qui n'est pas encore le cas, à mon avis, aujourd'hui. Et donc, il y a à la fois cet héritage de la division entre les réalos et les fundis, et puis un héritage aussi à moyenne durée d'une réunification qui fait que les Verts restent quand même un parti essentiellement ouest-allemand.
Mmh. Anne Sahl, dans les régions, dans les Länder, les Verts ont déjà gouverné, ils gouvernent d'ailleurs, ils gouvernent avec qui ?
Oh, alors ils gouvernent, y compris avec la droite, c'est le cas par exemple du Bade-Württemberg, absolument. Nous avons également une coalition jamaïcaine dans le Schleswig-Holstein, donc avec les Verts et avec les libéraux. Ce qui, à mon avis,
je précise, jamaïcaine, noir, vert et jaune.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire la CDU et les libéraux. Donc oui, et puis on a des coalitions dites Kenya, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande coalition plus les Verts. Il y en a plusieurs à l'Est, mais qui sont plus des coalitions des pis-aller. Soyons honnêtes, c'est parce que on n'est pas parvenu à avoir une coalition qui tenait la route autrement au vu du poids de l'AFD. Qui a conduit finalement à des coalitions qui sont plus subies véritablement que souhaitées par l'électorat. C'est vrai qu'effectivement, les Verts ne sont pas bien implantés à l'Est. Et comme l'a dit Hanstack, on a vraiment le problème du Linit, qui est effectivement au cœur de l'enjeu de la sortie du charbon, donc qui a été annoncé pour 2038 par Angela Merkel. C'est également ce que propose le parti SPD dans son programme pour les prochaines élections. Mais il est intéressant de voir que la gauche radicale est revenue là-dessus, alors qu'ils sont surtout implantés à l'Est et qu'ils défendent donc les intérêts des Allemands de l'Est. Ils ont mis dans leur programme noir sur blanc une sortie pour 2030, ce qui veut dire qu'ils tendent la main aux Verts, ils tendent la main au parti SPD, et on peut y voir d'ailleurs peut-être une proposition de coalition rouge-rouge-vert, donc SPD, gauche radicale et vert, si tant est que les pourcentages pouvaient le permettre. Mais on sent vraiment que la gauche radicale essaie de se démocratiser, de rentrer dans le camp vraiment démocratique, ce qu'elle est déjà, hein, puisqu'elle gouverne également dans différentes régions de l'Est, mais qu'il y a vraiment une volonté de montrer patte blanche et de dire, voyez, on se rapproche de vous, on est pour la transition énergétique, là où pour l'AFD, ça reste effectivement compliqué.
Hans Stark, quel type de coalition est envisageable pour les Verts au niveau fédéral? Est-ce que, en fonction des résultats, ils pourraient se tourner soit vers les uns, soit vers les autres?
Alors, tout est possible avec les Verts, sauf une coalition avec l'AFD. Ce qui fait du Parti des Verts vraiment un parti, entre guillemets, presque incontournable. La probabilité la plus élevée, c'est une coalition avec les chrétiens-démocrates. Actuellement, dans les sondages, le sondage qui est tombé aujourd'hui de l'INSA donne les Verts et les chrétiens-démocrates à 24% chacun, ce qui veut dire égalité. D'après ce sondage, les Verts ne sont plus devant la CDU. 48%, ça suffirait pour une majorité des sièges, étant donné le grand nombre de mandats directs. Il est également possible de former avec les chrétiens-démocrates et les Verts une coalition qui inclurait les libéraux. Mais ça va être très très difficile parce que les libéraux, ils sont à droite de la CDU sur le plan économique et social, alors que les Verts sont clairement à gauche de la CDU sur ces mêmes thèmes. Et en ce qui concerne la transformation écologique de l'Allemagne, cela nécessite selon les Verts, en tout cas, un très fort investissement de l'État ou une implication de l'État dans l'économie, et les libéraux du FDP, ils sont très hostiles. Une troisième possibilité serait une coalition de gauche plurielle, donc rouge encore avec Die Linke, donc l'extrême gauche, l'équivalent allemand de la France insoumise, et les Verts. D'après les sondages, ils seraient actuellement à 45-46%, ce qui n'est pas suffisant. Et puis, même si les Verts sont en effet
beaucoup plus axée à gauche qu'à droite sur le plan économique et sur le plan sociétal. Il y a une grande différence entre les deux. C'est la politique étrangère et de sécurité. Car Die Linke veut une politique de défense radicalement différente de ce qui existe aujourd'hui, avec une armée allemande qui ne quitterait plus le territoire national et surtout qui ne serait quasiment plus équipée d'armement moderne. Pour les Verts, qui sont notamment très sceptiques à l'égard de la Russie, beaucoup plus que Die Linke par ailleurs, c'est une politique qui serait inacceptable. Et par ailleurs aussi sur les questions européennes, donc tout ce qui relève de la politique de sécurité et défense commune, la PSDC, les différences sont vraiment colossales entre Die Linke et Die Grüne. Donc je pense que les Verts, en dépit de leur attachement entre guillemets aux valeurs de gauche, vont plutôt se tourner vers les chrétiens-démocrates, si c'est possible numériquement.
Oui, alors Emmanuel Droit, évidemment, on entend ce que vient de dire Hans Stark, une alliance avec les chrétiens-démocrates, CDU, CSU, qui sont au pouvoir actuellement avec Angela Merkel, c'est envisageable manifestement pour les Verts. Est-ce qu'une coalition de ce type est envisageable pour la droite ?
Oui, elle est aussi envisageable pour la droite. Je voudrais pas qu'on enterre trop vite Armin Laschet. C'est-à-dire que certes,
on va en parler.
Oui. Les Verts, on le vend en poupe et surfent sur évidemment des sondages toujours plus prometteurs. Mais du côté de la CDU a quand même un cœur électoral qui, d'un point de vue démographique, repose sur les retraités allemands qui vont voter certainement CDU au mois de septembre. Et la CDU, si elle réussit à garder le leadership politique en Allemagne, va certainement tendre la main au Parti des Verts, puisque les Verts sont en train de distancer le SPD, ce qui nous ramène encore une fois à une sorte de constante maintenant depuis 2005, c'est-à-dire que aucun parti n'est en capacité de remporter les élections avec une majorité forte. Il va falloir nouer une alliance. Alors depuis 2005, on a le modèle de la grande coalition qui a épuisé la SPD, et peut-être que les Verts apparaissent en effet comme le parti qui pourrait apporter cette majorité stable à la CDU pour gouverner à partir d'un contrat de gouvernement qui, on peut l'imaginer, va prendre du temps pour se mettre en place si au lendemain des élections, la CDU et les Verts décident de nouer cette alliance.
Alors on va le préciser, un contrat de gouvernement en Allemagne, c'est pas juste sur un coin de table et une poignée de main comme parfois ça peut se faire en France. C'est un document très précis qui fait plusieurs centaines de pages avec qui est nommé où et qu'est-ce qu'on va faire exactement. C'est un véritable contrat. Cette précision est en fait. Je sens bien que vous avez tous envie de parler d'Armin Laschet. Donc Hansal, on va en parler. Il a dû batailler ferme pour s'imposer en tant que candidat de la CDU. Sa désignation a coïncidé avec l'inversion des sondages. Je sais pas si on peut déjà dire ça parce que vous me disiez que tout ça est encore un petit peu volatile. Mais c'est quand même pas très bon signe pour lui.
C'est-à-dire qu'effectivement, il a dû pas mal batailler parce que les sondages donnaient beaucoup plus de popularité à Marco Söder, mais c'était du simple au double. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demandait, vous voteriez plutôt pour quel chancelier si vous votiez directement, on était à plus de 60% qui choisissaient Söder, contre donc environ 30% pour Armin Laschet. Donc c'était vraiment écrasant. Et Laschet a souffert d'une part de cette bataille qu'ils se sont livrés pour qu'il puisse lui finalement être nommé et qui a quand même nui évidemment à l'image de marque du parti de CDU, de CSU et également à celle de Armin Laschet. Là-dessus se greffent évidemment d'autres aspects qui induisent un manque de popularité. C'est quand même lui qui a été confronté à l'histoire de la déforestation de Hammar, dont on a beaucoup parlé en 2018. Donc également sur le plan écologique, il n'apparaît pas vraiment comme un défenseur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est en train justement maintenant d'essayer de renverser la vapeur. Il a fait de grandes annonces pour dire il faut faire bouger tout ça parce qu'il faut qu'il se débarrasse de cette image assez négative qu'il a donnée de lui sur la question écologique en vue d'une éventuelle coalition avec les Verts, puisqu'effectivement, c'est ce qui semble le plus probable dans le contexte actuel.
Hans Stark, vous nous disiez tout à l'heure que ça avait le temps de changer ces sondages pas terribles pour Armin Laschet. Est-ce qu'il compte, par exemple, sur la fin progressive des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19 pour remonter la pente ?
Bien entendu, si les sondages sont aussi mauvais pour la CDU, cela exprime un fort mécontentement des Allemands par rapport aux mesures prises pour les protéger, quand même, contre le Covid. Et évidemment, avec la perspective d'une ouverture des terrasses, des cafés, peut-être des restaurants également en Allemagne, un retour à une certaine normalité et une immunisation collective des Allemands d'ici août-septembre, ça pourrait jouer en sa faveur. C'est tout à fait possible. Il n'en demeure pas moins que, alors qu'il a été élu à la tête de la CDU en janvier, il n'a dégagé aucune dynamique depuis cette date. Alors on lui donne beaucoup d'avantages. Hein. Il paraît que c'est un très bon négociateur. C'est quelqu'un qui sait conclure des compromis. Il dirige une coalition avec les libéraux en Rhénanie-Nord-Westphalie. Et la Rhénanie-Nord-Westphalie, c'est une petite Allemagne en soi, puisque un habitant allemand sur quatre vit dans ce land. Et donc, connaît bien M. Lindner, le chef du parti libéral, et tout cela pourrait en effet jouer en sa faveur, c'est-à-dire cette expérience de former une coalition avec les libéraux qui inclurait les Verts. Mais il n'a pas le rayonnement, il n'a pas le charisme d'un Markus Söder, ni peut-être aussi l'audace et la froideur de ce dernier pour changer de position d'une année sur l'autre, hein, parce que Söder était quand même plutôt sur la droite de la CDU en 2018 dans l'affaire migratoire, pour aujourd'hui se montrer en défenseur de l'environnement et du climat. Ce sont quand même beaucoup de changements. Il ne faut pas être dupe pour tout croire. Mais sur le plan rhétorique, Armin Laschet, pour l'instant, ne convainc pas. Ce sera sans doute un handicap pour lui, pour la campagne électorale. Reste encore une dernière chose. Ansel, tout à l'heure, elle a parlé aussi des petites casseroles. Un certain nombre de députés chrétiens-démocrates ont versé dans des financements un peu occultes, bizarres, pour l'achat de masques pendant la pandémie. Et il en est un peu de même avec Armin Laschet, dont le gouvernement avait financé une entreprise de textile en Rhénanie-Westphalie, dont son propre fils est très proche. Donc on verra maintenant dans les prochaines semaines s'il y a quelque chose qu'il pourrait se devoir reprocher ou pas. Mais on n'y est pas encore. Dans l'ensemble, Armin Laschet, c'est un homme qui paraît intègre. Et surtout, c'est un homme qui a des convictions sur le plan européen. Son emplacement, sa ville natale, Aix-la-Chapelle, ses origines, qui sont partiellement belges, font de lui, l'image traditionnelle parfaite d'un chrétien-démocrate rhénan dans la lignée de Konrad Adenauer. Peut-être au moment des élections, ça jouera également en sa faveur, puisqu'il pourrait entraîner avec lui tous ceux en Allemagne qui sont encore en faveur de l'intégration européenne.
Ansel, est-ce que Markus Söder, le leader de la CSU, le parti frère ou cousin des chrétiens démocrates, mais bavarois, est-ce que lui, qui a mené la vie dure à Armin Laschet pour cette désignation, et vous disiez qu'il restait extrêmement populaire, est-ce qu'il a dit son dernier mot ? Est-ce que pendant les mois qui viennent, pendant la campagne, il va continuer d'aiguillonner Armin Laschet ?
Alors c'est ce qui s'est quand même passé ces derniers jours, puisque le parti de CSU a quand même rappelé à l'ensemble de l'Allemagne que tous les Allemands pouvaient adhérer au parti de CSU, pas seulement les Bavarois. C'était quand même une pique vis-à-vis de Armin Laschet qui était déjà nommé. Donc il faut vraiment voir comment ça va évoluer. Moi, je ne pense pas que ça va aller dans ce sens. Je pense que ça va se calmer parce que c'est dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre. En revanche, effectivement, si Laschet devait ne pas être élu chancelier, là, Söder pourra effectivement se positionner pour les prochaines élections. En revanche, en Allemagne, on est quand même souvent sur des cycles longs. Si Laschet est élu chancelier, à moins vraiment d'une catastrophe, il sera à nouveau candidat à sa succession. Donc là, c'est vrai que pour Söder, ça va être déterminant de voir ce qui va se passer aux élections. Mais effectivement, je pense que ce qui a été assez déterminant d'ailleurs dans son choix finalement de se retirer et donc d'accepter le vote du congrès du parti, ça a été justement les résultats des Verts. de voir que les Verts s'entendaient, étaient parvenus sans heurts, sans conflit à choisir Annalena Baerbock, c'était vraiment une leçon. On était dans un contexte où dans les médias, c'était vraiment très très mal perçu, cette guerre entre les deux candidats. Et face à eux, non seulement les Verts s'entendent facilement, mais eux avaient choisi et développé leur programme avant de choisir leur candidat. Le parti de CDU n'a toujours pas de programme.
Toujours pas de programme. Emmanuel Droit, Armin Laschet, est-ce que pour vous, il représente une forme de renouvellement ou de continuité par rapport à Angela Merkel ?
Non, non, il représente évidemment incontestablement à la fois une forme de continuité, j'allais dire dans l'absence de charisme et dans cette manière qu'il a de gérer les affaires au niveau de son land. Il faut se rappeler que lorsqu'il avait remporté les élections régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie en 2017, on l'attendait pas. Il avait remplacé la ministre-présidente de social-démocrate Annalena Kraft. Il fait pas beaucoup de bruit à Armin Laschet. Il a une majorité très étroite à Düsseldorf, mais en effet, Hans Clark l'a rappelé. Il arrondit les angles, il a cette capacité à réaliser des compromis, à dépasser les lignes de fracture.
Vous êtes en train de me parler de François Hollande, là, en fait ?
Non, je suis en train de vous parler d'un représentant assez classique de la classe politique allemande, c'est-à-dire quelqu'un sans grand charisme, mais qui sait gérer les affaires politiques et qui a un profond ancrage européen. Et c'est vrai qu'il a, le pauvre, il a eu plusieurs cailloux dans ses chaussures ces dernières semaines entre Friedrich Merz au moment de son élection en interne à la tête de la CDU pour succéder à AKK, ensuite Markus Söder qui, Stark l'a rappelé, hein, il a souvent un comportement limite populiste, en tout cas il est très cynique et il est connu pour avoir renversé Seehofer en Bavière, et on le voyait aussi à un moment éventuellement reproduire la même chose au niveau de la CDU-CSU. Simplement, il a eu cette intelligence politique de se dire, en effet, il faut pas qu'on donne une image trop divisée de notre camp, sinon ça va être catastrophique pour la suite de la campagne. Moi, je pense que Armin Laschet, c'est un moteur diesel, et en Allemagne, le moteur diesel, même s'il n'a pas à l'avenir forcément très brillant à long terme, il a fait quand même à la fois la puissance et la limite de l'entreprise Volkswagen. Mais je veux dire, il va mettre du temps à entrer en campagne. Mais à la fin, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que les Allemands vont miser sur l'expérience politique ou sur le renouveau de la jeunesse et donc un saut dans l'inconnu. Est-ce que l'électorat allemand fera ce pas-là ? C'est une vraie question ouverte, j'ai pas de réponse, je sais pas si mes collègues ont une intuition, mais en tout cas, ça va être l'enjeu, l'expérience ou le renouveau et donc le saut dans l'inconnu.
Anne Sall, il nous reste une minute. Pour vous, est-ce qu'on est à la veille d'un renouvellement important ou pas vraiment ?
Alors c'est difficile à dire à ce stade parce qu'on vient tout juste d'avoir les nouveaux candidats effectivement et ça va beaucoup dépendre de la manière dont va évoluer Annalena Baerbock dans les mois qui viennent. Et là on est vraiment au début.
Hans Stark, vous avez pratiquement une minute pour répondre, pour donner votre avis sur cette question. Est-ce que, bon, ça va forcément changer, mais est-ce que ça va changer vraiment ?
Difficile à dire. On verra comment la CDU va évoluer aussi dans les prochaines semaines. Ce parti est très tiraillé entre, je dirais, une orientation centriste, pro-européenne d'un côté, et puis quand même malgré tout une volonté de rapprochement pour certains avec l'AfD en Allemagne de l'Est. On l'a observé ces derniers jours en Thuringe et au Sachsen-Anhalt. Et cela pourrait en effet diviser profondément les chrétiens-démocrates et faire pousser des électeurs du parti chrétien-démocrate dans les rangs du DVR. Donc il faut observer un peu l'évolution de ce parti, mais a priori je pense quand même que la CDU sera devant les Verts en septembre.
Merci Hans Stark, merci également à nos autres invités, Anne Sall d'avoir été en studio avec nous et Emmanuel Droit, merci à vous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet RFI.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.
Du 19 au 28 août 2020.